Écoutez moi, la chronique Les 10 minutes du DLA présente une info, une ressource, un outil pour faciliter le quotidien des assos. Et bonjour tout le monde, je suis heureuse à nouveau de vous retrouver ce mois-ci. Quelle assiduité je fais preuve, c'est incroyable. Donc, merci d'être avec moi pour les 10 minutes de DLA, notre petite parenthèse pour donner un peu à réfléchir, élargir les horizons des associations. Donc, je suis chargée de mission du DLA, dispositif local d'accompagnement, qui est en place en Lozère, porté par la DEFPAT pour aider les structures de l'économie sociale et solidaire à trouver des réponses à leurs problématiques économiques, organisationnelles, partenariales ou stratégiques. Ce mois-ci, je vais vous parler d'intérêt général et de concurrence. Ouh là 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 là, ça fait un peu peur, j'avoue. Je me suis penchée sur ce sujet parce que j'ai reçu une newsletter en la matière et que c'est un questionnement qui est hyper fondamental pour le secteur de l'économie sociale et solidaire. Ça définit beaucoup du cadre du secteur de l'économie sociale et solidaire et ça permet de dire ce qu'on peut ou pas faire en tant qu'association notamment. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ça, mais l'idée pour moi, c'est plus de vous donner envie d'aller lire cet article qui m'a inspirée. Je vous donnerai donc bien sûr la référence pour cela. C'est un article qui vient d'une étude commanditée par le Haut Conseil à la vie associative qui a produit en juin 2025 un rapport faisant un état des lieux et en formulant de précieuses recommandations pour les associations sur qu'est-ce que c'est que l'intérêt général, qu'est-ce que c'est que la concurrence au niveau associatif et comment se dépatouiller dans tout ça. Donc c'est des membres de cette institution, Michel Cantina, Chantal Bruno et Claudine Jasson, je les cite parce que quand même ils ont fait un gros boulot, qui nous proposent une synthèse de cette étude. Donc vous la retrouverez dans la newsletter du labo de l'ESS. Je vous mettrai aussi la référence parce que c'est je trouve une lettre d'information qui est très intéressante et qui nous parle un petit peu ce qui se passe au niveau national. On n'est pas toujours au courant et c'est important aussi de voir ce qui se passe ailleurs pour qu'on puisse un peu faire front et porter une voix, disons, un petit peu plus militante à l'échelle locale. Alors, revenons à nos moutons. Donc, qu'est-ce que c'est déjà que l'intérêt général? Donc, je vais vous en parler rapidement. C'est une appellation qui est donnée aux associations quand elles représentent un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, et qui concourt à la mise en œuvre du patrimoine artistique, la défense de l'environnement naturel. Elles doivent remplir plusieurs critères, ces structures d'intérêt général, elles doivent exercer une activité non lucrative, leur gestion doit être désintéressée et aucun avantage ne doit être attribué à leurs membres. Ben en fait, souvent, ces associations se définissent par l'intérêt général. Juste très rapidement, on parle aussi d'utilité publique parfois. Donc ça, c'est vraiment un critère qui est encore plus pointu, plus complexe. C'est même un décret en fait, du Premier ministre, pardon, quand il y en a un, qui peut donner, j'ai pas pu m'empêcher, qui peut donner l'intérêt, cette reconnaissance d'utilité publique. Donc, il y a à peu près 1800 structures associatives qui sont reconnues d'utilité publique. Donc, c'est beaucoup plus rare et beaucoup plus contraignant. Par exemple, il faut bien sûr être d'intérêt général. Il faut avoir un rayonnement qui dépasse le cadre local, au moins 200 adhérents, avoir une solidité financière sérieuse. Bon, là, ça se complique. Donc voilà, ça touche beaucoup moins de structures. Mais je voulais faire cette petite aparté. Donc revenons à notre notion d'intérêt général qui est au cœur, comme je disais, de la définition de l'économie sociale et solidaire. Mais le problème, c'est un grand problème maintenant, c'est que le concept il n'a jamais reçu de définition légale ou jurisprudentielle. Et la définition qu'on applique souvent, c'est celle qui est fiscale. Et en fait, ce problème de définition, on le retrouve au niveau européen comme au niveau français. Donc en fait, ça donne lieu bien sûr à des appréciations selon les différents services de l'État concernés. Donc cela, ces services en l'occurrence, tendent à privilégier l'approche disons plutôt fiscale et des règles de la concurrence. C'est pour ça qu'on parle des deux thématiques. Et c'est plutôt le fait d'être concurrentiel qui va être étudié que le fait d'être d'intérêt général. Et c'est une appréciation qui est donc faite par les services de l'État, qui peuvent avoir des impacts parce que si on est reconnu comme étant concurrentiel, une structure associative va être soumise aux impôts commerciaux, ne plus pouvoir bénéficier de mécénat et plus pouvoir faire appel à des dons défiscalisés. Les structures qui sont faites des demandes de rescrit fiscal savent de quoi je parle parce que souvent on est surpris de se retrouver classifié comme une structure associative concurrentielle alors qu'on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là et qu'on est bien dans un état d'esprit d'intérêt général. Donc c'est encore plus paradoxal en ce moment, parce que on le sait tous, hein, les baisses des financements publics sont très prégnantes et on nous pousse même à développer un nouveau modèle économique, à développer des nouveaux services, à faire de la vente de services. Donc c'est assez paradoxal. D'un côté, on nous dit allez-y, développez ces services, ces ventes, mais d'un autre côté, on risque de perdre notre caractère d'intérêt général et d'être soumis aux impôts commerciaux et du coup de déstabiliser encore plus notre modèle économique actuel basé sur les subventions publiques. Donc c'est l'intérêt de cet article qui va proposer des pistes en fait, mais des pistes qui sont, pour être très honnête, qui sont quand même plutôt politiques et du domaine du plaidoyer. Il n'y a pas de recette magique sur ces paradoxes entre développer son modèle économique avec de nouvelles prestations et garder son statut d'intérêt général. Mais il y a des idées de plaidoyer à conduire ensemble, à défendre auprès de nos financeurs publics. Et c'est ça qui est intéressant, comprendre ces distinguos, cet enjeu, ce paradoxe, ça nous permet, nous, dans nos demandes de subventions futures, de s'appuyer aussi dessus et d'aller défendre cet intérêt général qui est le cœur de l'économie sociale et solidaire et de nos associations. Donc je vous invite, encore une fois, à en prendre connaissance et à vous en saisir. Il y a quand même quelques pistes qui sont vraiment intéressantes pour appuyer toujours vos demandes de financement auxquelles on tient les financements publics. Merci et je vous retrouve avec plaisir en début d'année.